Et c'est l'heure du billet politique. Frédéric Saïs, vous revenez sur les faits marquants de cette année 2019. Et ce matin, il est question de finances. Et votre invitée est rédactrice en chef de la rubrique Finances au journal Les Échos.
Bonjour à tous et bonjour Elsa Conessa.
Bonjour.
On revient avec vous sur cette année 2019 côté finances. Et un constat contre-intuitif, cette année le nombre de traders a fortement baissé. De combien et pourquoi ?
Alors oui, effectivement, c'est une tendance longue qu'on observe depuis plusieurs années. En 2019, on a atteint un point bas. On est un peu en dessous de 50 000 traders au niveau mondial. Donc c'est un chiffre qui concerne les 12 plus grandes banques qui sont présentes dans la banque d'investissement. C'est à peu près 20 000 de moins qu'en 2010. À mon sens, la principale explication, c'est en fait le souhait des régulateurs mondiaux, après la crise, de dérisquer les banques, c'est-à-dire d'enlever des activités et des bilans des banques, toutes les activités risquées, ou le plus possible d'activités risquées. Donc il y a eu un souhait vraiment au niveau mondial des régulateurs de dérisquer les banques, de sortir le plus possible ce qui pouvait apparaître comme risqué. Alors comment ils ont fait ça? En fait, ils ont imposé aux banques des contraintes en fonds propres, des contraintes en capital plus importantes sur certains métiers.
C'est-à-dire que ça oblige... un matelas minimal de fonds propres pour être moins risqué en cas de...
Voilà, ça les oblige à mettre de l'argent de côté, en clair, vraiment à faire un matelas, un coussin de fonds propres, d'argent en fait. C'est vraiment du résultat mis en réserve pour faire face à des pertes éventuelles en cas de retournement.
Alors, ça ne veut pas dire que toute la finance se porte mal ou serait très régulée, puisque la nature ayant horreur du vide, après que ces banques ont été beaucoup plus régulées, finalement, il y a un autre type d'acteur qui a pris le dessus sur les banques, qui est au moins aussi puissant et peut-être au moins aussi risqué aujourd'hui. De qui s'agit-il ?
Alors en fait, il s'agit des grands investisseurs institutionnels, des grands fonds de gestion d'actifs qui sont pas très connus en France. Ce sont surtout des fonds américains, puisque comme vous le savez, en France, on n'a pas de fonds de pension.
Donc ce sont des géants de l'investissement
qui s'appellent typiquement BlackRock, dont on parle un peu en ce moment, qui s'appellent State Street, qui s'appellent Vanguard, qui s'appellent Fidelity, Carlyle, Blackstone. Enfin, il y en a vraiment énormément. Et on voit vraiment que sur les 10 dernières années, depuis la crise, le bilan des grandes banques, en tout cas aux États-Unis, a tendu à rester à peu près stable, voire un peu à diminuer, alors que les actifs gérés par ces grands fonds, en fait, ont quasiment triplé. On est autour de 18 000 milliards de dollars d'actifs gérés.
Mais est-ce que ça veut dire que cette prééminence des fonds d'investissement sur les banques rend le système moins risqué si demain une crise éclate?
Alors, c'est la grande question, en fait, à laquelle je ne suis pas capable de vous répondre, pour être parfaitement honnête, mais ce qui est certain, c'est que le risque n'a pas disparu. Ce risque est moins présent dans les banques, il en reste encore un peu, je veux dire, les banques américaines ne sont quand même pas complètement au tapis, mais clairement, quand on compare la taille des actifs et des bilans, le pouvoir a changé de main. Donc, ce sont vraiment ces grands fonds qui sont aujourd'hui, qui incarnent Wall Street, en fait.
Il y a vous voulez dire qu'on s'est peut-être trop focalisé sur les banques au niveau de la régulation et pas assez sur ces grands fonds d'investissement?
En tout cas, c'est une question qui se pose. Parce que les régulateurs vraiment se sont acharnés, à raison, contre les banques pour imposer des contraintes. Ils continuent d'ailleurs. Il y a encore des réflexions en Europe pour durcir encore ces ratios de solvabilité, de liquidité, etc. Et en fait, les banques, à raison, disent, mais regardez un peu de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le shadow banking, en fait. Tout ce qui est sorti des banques et qui est maintenant dans un espèce de monde de l'investissement qui est régulé, mais qui l'est beaucoup moins que le secteur bancaire. In fine, l'argent qui est géré par BlackRock, Fidelity, etc., c'est l'épargne retraite des enseignants, des pompiers, des fonctionnaires américains et des salariés du privé, tout simplement. Donc, je veux dire, s'il y avait un gros accident sur une des classes d'actifs dans lesquelles les fonds investissent, enfin, est-ce qu'on peut imaginer un scénario où l'épargne de, je sais pas, de plusieurs millions d'Américains était soudainement réduite à zéro? Certains pensent que c'est un risque systémique, c'est-à-dire que c'est un risque qui est susceptible d'entraîner avec lui vraiment une dégradation forte de l'économie.
Le risque systémique qui vient, merci Elsa Conessa, merci de nous avoir éclairé ce matin sur cette matière complexe. Je rappelle que vous êtes journaliste aux Échos, rédactrice en chef, finance et marché. Bonne journée.